Voilà. Alors, bonjour Nicole.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans la lointaine Haute-Savoie et pas au plus près de Lyon.
Et la belle.
Et la belle Haute-Savoie. Merci. Qui êtes-vous, Nicole Fabre ?
Je suis une femme. Je suis protestante, donc je suis très, très, très touchée que vous m'ayez invitée sans même savoir ce que je vais vous dire. C'est un signe de confiance énorme. Je suis pasteur de l'Église protestante unie maintenant, mariée à quelqu'un de catholique. Donc ça veut dire que je ne dois pas dire trop de mal des catholiques. Nous avons 5 enfants. J'ai eu très longtemps un ministère de ce qu'on appelle de bibliste, qui n'était pas un ministère d'enseignement, c'est pour ça que j'ai été très touchée par tout ce que vous faisiez, mais qui était un ministère d'encourager les personnes, les groupes d'adultes, et puis parfois des groupes intergénération, enfants et adultes ensemble, à ouvrir le livre et à oser lire le texte, à savoir que tout le monde sait lire ce texte.
Alors, pour les auditeurs de RCF parmi nous, vous êtes une voix connue derrière le poste, dans le poste. On est content de vous avoir aujourd'hui. Moi, j'avais pris mes précautions, je savais qui j'invitais avec l'équipe de pilotage de cette journée, puisque vous êtes intervenu souvent déjà à Lyon. Je vous ai invité au séminaire Saint-Irénée quand j'étais dans la formation des séminaristes, et on en a toujours reçu beaucoup avec vous, grâce à vous. Alors, merci d'être là et merci de ce que vous allez nous dire.
Alors, comment la parole nous change ? Je vais peut-être d'abord commencer pour vous situer et me présenter par rapport à la Bible, justement, et au texte biblique. Et puis ensuite, je vous dirai comment je vais m'y prendre. Mais simplement pour dire un peu plus de ma relation au texte biblique. Toute petite, je suis fille de pasteur. Donc l'enseignement, c'était vraiment les textes bibliques. Et je me souviens par exemple d'un petit chant qui longtemps après m'a fait rigoler, mais qui maintenant, quand j'y reviens, était quelque chose de très profond finalement. On aimait bien le chanter parce qu'il y avait des gestes aussi. « Lis ta Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. » Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Voilà, ça continue. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que ça a été quelque chose d'essentiel. Et puis, les textes bibliques nous touchent, enfin m'ont touché très profondément dans mon parcours. Je me souviens que petite, la chose qui m'a marquée, c'est David. Le personnage de David, qui, enfant, arrive à avoir cette confiance tellement folle qu'il arrive, alors que toute l'armée et le roi d'Israël ont peur d'affronter le géant philistin, qui lui, il va avec sa petite fronde, parce qu'en tant que jeune berger, il sait lutter contre les animaux qui attaquent le troupeau. Et il va arriver à tuer Goliath, à tuer ces géants. Donc les géants, on en a quand on est enfant, des peurs. On en a aussi quand on est adulte. Mais c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, ce Dieu qui est capable de voir qu'un enfant peut sortir, même des adultes, du pétrin. Voilà, que quelqu'un dont on ne s'y attendrait pas est appelé. Voilà, donc dans cette prière personnelle, petit à petit, je sais aussi qu'adolescente, il y a des passages qui m'ont marquée. Alors, c'est un autre rapport, mais je me souviens très bien des lettres que j'ai écrites à ma grand-mère quand elle est devenue veuve, parce que je lisais dans les textes bibliques « Tu prendras soin de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger qui est au milieu de toi ». Ensuite, j'ai fait des études de théologie. Et là, donc, ça a été tout un temps où ça a été beaucoup la réflexion sur ces textes. Réaliser que c'était d'autres que nous, dans d'autres contextes, dans d'autres pays, d'autres manières de penser, qui nous avaient transmis ces textes, avec ce qu'on appelle beaucoup l'historico-critique, c'est-à-dire remettre dans le contexte historique. Et puis, une fois que j'ai été pasteur, j'ai été invitée un jour à faire une semaine d'exercice spirituel de Saint-Ignace, oui. Et j'ai encore souvenir du premier texte sur lequel je me suis arrêtée et où on m'a appelée à prier, invitée à prier. Vous avez été transféré, il nous a transféré dans le royaume de son amour. Vous savez, comme les arbres que l'on peut mettre dans une terre qui tout d'un coup, une terre qui les fait, qui les nourrit, qui les fait respirer, qui les fait grandir, qui les fait porter du fruit. Voilà. Et cette terre, c'est le royaume de son amour. Voilà, donc ça, c'était juste des petites touches. Dernière petite touche que j'ai essayé de repérer, la semaine dernière, dans tous mes emails, j'ai lu une publicité de la Procure et j'ai vu très fugitivement un livre qui me semble avoir paru, alors j'ai rappelé la Procure, ils n'arrivaient pas à trouver, qui avait ce titre-là, « Cessons d'interpréter la Bible, lisons-la ». Voilà, donc je ne sais pas s'il existe, si j'ai rêvé, mais je l'ai lu et puis celle de la Procure me disait « si, il me semble bien qu'il y a quelque chose comme ça qui est passé, mais on n'a pas réussi à retrouver ». Alors voilà, que pouvons-nous attendre de la lecture des textes bibliques? Et puis ensuite, je dirais comment cette lecture peut devenir lumière, nous éclairer, et en dernier point, les effets de cette parole ou de cette lumière, les effets que nous pouvons attendre. Que pouvons-nous attendre? Et en répondant un peu à cette question, je vais aussi tracer au fur et à mesure des clés qui nous permettent de lire la Bible et de lire ces textes de manière vivante et vivifiante. Parce que quand même, et de fait dans le dialogue on l'entendait, il arrive souvent que face à un texte, et ce matin vous l'avez peut-être vécu, moi je l'ai vécu comme ça, en disant « qu'est-ce qu'on va sortir de là ?» Ce n'est pas toujours facile de lire les textes bibliques. Et beaucoup de personnes nous font écho en disant « c'est compliqué, j'y comprends pas vraiment ». Et puis ça se passe à une époque que l'on ne connaît pas, qui nous échappe. Je ne sais pas suffisamment de choses pour lire vraiment. Et puis je peux me tromper. Enfin, on entend énormément de choses. Et donc dans mon ministère de bibliste, c'était vraiment traverser toutes ces questions-là pour oser, pour se risquer. Alors je vais partir d'un verset d'un des psaumes, le psaume le plus long. Donc je crois que ça ne m'est jamais arrivé, je ne sais pas si ça vous est arrivé, de lire d'emblée du début jusqu'à la fin. Le psaume 119, au 105e verset, vous voyez qu'il est assez long et c'est de loin pas la fin. « Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier. » Donc j'aimerais partir de là. Comment la parole peut-elle devenir lumière? Et lumière, non pas qui vous arrive en pleine face, vous savez, quand on circule la nuit et que quelqu'un a ses phares et que vous êtes complètement ébloui, mais une lumière, je trouve ça très impressionnant, l'expression, à mes pieds. Voilà, ça vous rappelle peut-être une posture de Jésus quand il se met à laver les pieds de ses disciples. Et une lumière qui éclaire au fur et à mesure du chemin. C'est toute l'expérience des psalmistes d'ailleurs, si on retraverse les psaumes. Donc comment La parole, enfin, le texte biblique peut-il devenir lumière ? Alors j'aimerais tout de suite dire, qui dit lumière qui survient, dit aussi découverte des zones d'ombre. Quand on allume une lumière, ben forcément ça projette des ombres. Peut-être aussi que c'est pour ça que c'est pas si facile que ça d'ouvrir le texte biblique, parce que peut-être qu'il va nous montrer des choses qui en nous sont pas bien posées ou un peu troubles. Peut-être aussi que c'est pour ça que des fois on craint d'ouvrir ce texte. Et donc la première chose que j'aimerais dire, c'est accepter, enfin non, je voulais juste dire une chose avant, la découverte de ces zones d'ombre, non ça y est, ça m'a échappé, donc j'en arrive à mon premier point. Dans ce questionnement, comment peut-elle devenir lumière ? Donc accepter de reconnaître l'effet que produit sur moi un texte. Ça va être mon premier point. De fait, m'est revenu ce que je voulais vous dire et ça va mieux maintenant. Parce qu'en fait, quand je lis le texte, certains ont pu dire, en fait, en même temps, le texte me lit. C'est-à-dire, c'est une vraie rencontre entre moi-même, tout ce que je suis, je vais y revenir, et puis le monde du texte, qui est un monde que je ne connais pas, mais qui vient à ma rencontre. Non seulement Dieu, mais tous les témoins qui ont écrit ces textes-là. Donc, accepter cette rencontre et l'effet que produit sur moi le texte. Et c'est bien ce qui se passe dans les fraternités missionnaires, si j'ai bien entendu. C'est qu'on prend le temps de dire comment ce texte me rejoint maintenant. Et comme le disait quelqu'un, ça permet d'aller au-delà de la surface. Alors je dirais tout de suite, il s'adresse à nous dans tout ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'il s'adresse effectivement à notre intelligence, mais il vient aussi nous rencontrer avec toutes nos émotions, avec tout notre cœur, avec toute notre sensibilité, notre ouverture à la poésie, à l'art, aux mots. Bref, je crois que c'est très important si on veut écouter le texte, qu'il devienne lumière, de réaliser qu'il ne nous rencontre pas qu'au niveau de l'intelligence. Et puis, pour reprendre les trois grands lieux, mais il y en a de multiples dans la Bible, hein, l'intelligence, les tripes, les émotions, et le cœur, dans la Bible, le cœur n'est pas le siège des émotions, le siège des émotions, c'est la matrice. Quand nous faisons ce travail-là, justement, il y a quelque chose de très important qui se passe, de l'unification de notre être. On va essayer d'écouter cette parole sans être divisé. Et peut-être que le blasphème a quelque chose à voir avec aussi la division. C'est-à-dire que je vais penser quelque chose et en fait je vais vivre autre chose. Donc cette unité. Et dans les textes bibliques, je trouve ça très beau. Alors Gilles, je ne sais pas si c'est très... tu me diras si je peux dire ça, parce que pour les Hébreux, on parle toujours de la totalité de la personne. Mais la totalité de la personne au niveau du raisonnement, de l'esprit, ou la totalité de la personne au niveau de ses émotions. Et en fait, j'aime bien dire le cœur qui est le siège de la volonté, c'est-à-dire là où je vais prendre les décisions les plus profondes. Le siège de mon action, c'est ça le cœur en fait, au niveau biblique. Eh bien, il est fait justement du lien entre ma tête et mes émotions. Il faut les deux, la rencontre des deux, pour que se passe quelque chose au niveau de mon agir même et de ma volonté même. Et c'est là où la parole vient nous changer en profondeur. Voilà, je vous disais, mais oui, je vais quand même prendre le temps. Il y a non seulement l'intelligence, il y a aussi toute la sensibilité aux choses. Et je vous dirai juste un souvenir que j'ai d'une année où on avait travaillé, des groupes dans toute la région avaient travaillé sur l'Apocalypse. C'est pas un livre si facile que ça. Et je me souviens en Ardèche, la dernière fois que j'étais venue les rencontrer, et où ils disaient un peu comment ils avaient vécu, traversé ce texte de l'Apocalypse durant toute l'année. Bon, les bons protestants, les catholiques aussi, disaient c'est un texte qui est difficile, parce qu'ils essayaient de le comprendre. Ça doit être crypté, ça veut dire quelque chose. Ils le lisaient comme on lit les évangiles, des récits. Or, c'est un tout autre style. Et tout d'un coup, il y a une femme qui dit, ben, moi, j'aimerais juste dire que heureusement que j'ai lu l'Apocalypse cette année. Peut-être que j'aurai le courage d'ouvrir ma Bible maintenant. Alors, on était tous étonnés. Cette femme était peintre. Et du coup, elle a lu l'Apocalypse en laissant vivre toutes ces images de têtes, d'animaux à multitêtes, de couleurs. Et elle, ça lui a parlé de Dieu qui prend à bras le corps la question de la mort et de la vie, et qui fait surgir au cœur même de nos épouvantes la vie. Et je me souviens toujours de sa phrase, « Heureusement que j'ai lu ce texte-là, peut-être que ça va me donner le courage d'ouvrir la Bible. » Ce qui veut dire aussi, et c'est ce que vous vivez, que c'est essentiel de lire ensemble, parce que nous sommes tous rejoints de manière différente. Et c'est une des grandes forces. En écoutant, j'avais presque envie de dire, j'ai plus grand-chose à dire. C'est une des grandes forces de la lecture ensemble. Parce que les uns sont plus sensibles à ça, et puis selon les moments de notre vie, on est plus sensible à tel ou tel point. Et justement, le fait de lire ensemble nous donne plein d'instruments pour nous mettre à l'écoute du texte. Parce que c'est quand même ça. Et nous permettre au texte de nous éclairer, d'éclairer nos propres vies individuelles, mais aussi nos vies communautaires, et aussi notre vie sociale, notre vie politique. Donc, dans ce cadre-là, c'est essentiel de pouvoir dire comment, dans ce texte, qu'est-ce qui me réjouit ? Qu'est-ce qui me redonne du courage quand je le lis comme ça immédiatement. Qu'est-ce qui me confirme dans ce que je pensais ? Et c'est très important de se dire cela, parce que ça va nous permettre de retraverser le texte dans tout ce que nous ne comprenons pas. Parce que le deuxième point, et ça c'est aussi essentiel, c'est d'oser dire ce qui m'arrête, ce qui me rebute, voire même ce qui est inadmissible pour moi. J'ai le droit de le dire. Et là encore, je me souviens d'un groupe à Tournon où une femme avait dit « Mais qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur des choses où vraiment on n'est pas d'accord ?» Et spontanément, je lui avais dit « Ben écoutez, moi, je me réjouis. » Et elle m'avait dit « Pourquoi vous vous réjouissez ?» Et je lui ai dit « Je sais qu'il y a quelque chose là que je n'ai pas encore entendu. » Parce que je viens au texte avec toute ma logique, toute ma manière de comprendre la vie, les choses, etc. Et c'est extraordinaire quand le texte nous résiste. C'est-à-dire quand tout d'un coup, je vais tomber sur quelque chose où je me dis, mais pourquoi il dit ça ? Pourquoi c'est dit comme ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Au début, j'en avais peur, et maintenant, c'est une vraie joie, parce que ça va me permettre vraiment d'être à l'écoute, non pas de ce que je pense que le texte dit, vous me suivez là, mais de sa façon de dire les choses, de sa façon de parler du bonheur, de la mort, de la vie, de la justice, de toutes ces questions-là qui travaillent tous ces textes. Donc c'est essentiel de pouvoir dire « là, je suis étonnée », voire « là, je suis choquée ». C'est pas un sacrilège, parce que on commence à ce moment-là d'accepter qu'il nous dérange. Et peut-être que je vais réaliser qu'on peut voir les choses d'une autre façon. Deuxième point, dans cette première partie, comment le texte peut-il devenir lumière ? Faire attention, du coup, au texte lui-même pour entrer dans sa propre logique, ou pour le dire autrement, pour laisser la logique de Dieu bouleverser un peu la nôtre. Alors là, j'aimerais simplement dire que texte vient d'un mot, enfin de la racine, la même racine que tisser. Donc, vous pouvez prendre un tapis, par exemple. Selon la façon dont vous allez mettre à côté telle ou telle couleur, le dessin va changer. Même si vous connaissez bien le rouge, si vous le mettez à côté d'un tel vert, etc., oula, il va s'éclairer d'une manière... J'avais jamais vu ce rouge-là comme ça, à cause de l'autre couleur qui est à côté. Et quand on parlait de surface et d'aller un peu plus au fond, il y a ça. Quand on prend le temps, petit à petit, on pose un regard différent sur les choses. Par exemple, complètement anodin, vous savez tous, je vous ai parlé d'un arbre, vous savez tous ce qu'est un arbre. Voilà, la définition d'un arbre. Prenez un arbre dans le désert. Je suis allée une fois au Maroc avec mon mari, et chaque fois qu'il y avait des arbres, il voulait absolument s'arrêter. Donc, heureusement qu'il n'y en a pas trop dans le désert. On s'arrêtait et on allait voir. Et naïve et inculte comme j'étais, j'ai réalisé petit à petit que sous les arbres, on voyait des pierres en rond. Signe que l'arbre était le lieu où on pouvait parler, discuter, parce que c'est l'ombrage. Donc vous voyez ce que signifie un arbre en plein désert. C'est le repos, c'est la convivialité, c'est la fraîcheur. Prenez un même arbre en forêt amazonienne, où vous êtes en train d'essayer de vous frayer un passage et où vous avez un arbre qui est au milieu de la route, qui est tombé. À ce moment-là, sentez bien, l'arbre va évoquer quelque chose de l'impossibilité, de l'obstacle. C'est pas du tout pareil. Donc c'est important de réaliser que dans les textes bibliques, j'ai beau avoir une définition du dictionnaire sur chacun des mots, quand ils sont mis les uns à côté des autres, ils prennent des sens, ils se colorent, on pourrait dire, ils se colorent d'une manière unique. Et chaque texte est unique. Et pour ça, une des grandes, grandes, grandes règles, c'est prendre du temps. Voilà. Ça m'arrivait de dire, on lit en TGV, en général. Alors, quand vous prenez le TGV de Lyon à Paris, vous voyez des choses. Hein. Vous êtes d'abord dans la vallée de la Saône, ensuite le Morvan. Enfin, je suis désolée, je suis lyonnaise, donc Voilà, bon, le Morvan, et puis ensuite les grandes plaines de, je pense que ça doit être la Beauce, et puis vous arrivez dans toute la banlieue parisienne. Donc vous pouvez dire des choses, vous voyez, j'arrive à dire des choses sur ce trajet-là. Faites le même trajet en bicyclette. Donc c'est important de lire, c'était dit d'ailleurs par ceux qui mettent en scène, de lire, de relire, de prendre le temps. Et c'était dit aussi dans un témoignage, les silences. C'est important, ça fait partie de, ça y est, je laisse la place à la fois à la parole que les autres vont dire, mais aussi à ce que le texte biblique dit et sa manière à lui de dire les choses. Je peux simplement vous dire qu'on met énormément de temps à écouter. Énormément. L'autre jour, j'en souriais parce que je devais travailler le chapitre 9 de Marc. Dans ce chapitre-là, vous avez la deuxième annonce de la Passion. Cette deuxième annonce de la Passion, il y avait plein de choses que je n'avais pas réalisées. Une des choses, j'en ris, que je n'avais jamais réalisé, c'est que pendant que Jésus parle pour la deuxième fois du chemin, de l'aboutissement du chemin, ce que vous disiez à Jérusalem, les disciples parlent de qui est le plus grand. Bon, preuve qu'il y a des choses qu'on a du mal à entendre. Et donc Jésus leur pose la question, de quoi parliez-vous en chemin ? Ils n'osent pas y répondre. Donc Jésus s'assied et puis il va dire, si quelqu'un veut être le premier, ben écoutez, j'ai lu des centaines de milliers de fois, non je sais pas, ce texte-là, je n'avais jamais réalisé que, alors que les disciples parlaient de qui est le plus grand, Jésus va parler de qui est le premier et que c'est pas du tout la même chose. Si vous voulez passer en premier, et Jésus va passer en premier, justement, au moment de la mort et de sa résurrection. Voilà. Soyez le dernier. Voilà. Ce qui veut dire aussi, dans cette... alors, il y a des choses qui peuvent nous aider, hein, dans cette manière de faire attention à la façon dont le texte lui-même se dit. C'est toutes les répétitions, mais vous connaissez peut-être. C'est pas pour rien qu'il y a des fois des mots qui reviennent sans cesse dans un texte. Puis justement, à contrario, comme dans un tapis, c'est pas rien quand tout d'un coup il y a un mot qui est là, seul. On ne l'avait pas entendu encore. Et tout d'un coup, il arrive. Ou bien faire attention à tout ce qui se passe, les changements, ce qui est pareil et ce qui change entre le début et la fin d'un texte. Voilà, quantité de questions comme ça qu'on peut se poser pour prendre le temps d'écouter le texte biblique et la façon dont il parle. Par exemple, demain, c'est le texte, si je ne m'abuse, de... Il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Vous avez un homme qui est présenté, et on va y insister, un juge qui n'a ni crainte de Dieu, ni respect des hommes. Et puis, on va vous le redire d'ailleurs, parce qu'il refuse donc d'entendre la veuve, puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte pas les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, et il les fait attendre. Je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. » promptement. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Donc c'est étonnant, vous avez cette figure du juge qu'il faut vraiment aller déloger pour qu'il se mette à entendre. Et puis le texte vous dit, Dieu est tout différent. Et puis il termine sur la question de la foi. Y aura-t-il encore de la foi ? On peut se demander, les textes ont des multisens, hein, enfin beaucoup de sens, si un des sens du texte, ce n'est pas de nous questionner sur notre foi. Quand nous prions, à qui nous adressons-nous ? À Dieu comme un juge qu'il faudrait aller réveiller, aller faire le pied de guerre pour qu'enfin il m'écoute ? Ou à ce qui est dit à la fin du texte, je vous le déclare, il leur fera justice promptement. Donc vous voyez, c'est toute cette manière de peu à peu écouter la façon dont le texte vient nous prendre par la main et nous faire bouger. Voilà. Ici, peut-être nous faire bouger entre la vision d'un Dieu que nous ressentons parfois comme un juge et qui en fait est tout autre. Nous faire passer de la non-foi à la foi. Puis je ne vous dis pas la question de la justice, parce que la parabole d'après, c'est quoi la justice ? La parabole d'après, on a le pharisien qui vient dans le temple et qui dit « Je te loue, Père, de ce que je suis », etc. Et puis vous avez le péager derrière qui dit « Mon Dieu, prends pitié de moi. » Celui-ci sorti justifié. Bon, là aussi, la justice, vous voyez que quand on lit ces textes, on se rend compte que ce n'est pas mon droit, mais la justice, c'est quelque chose qui me rétablit dans mon droit de la part de Dieu. Enfin, je vais peut-être un peu vite. Alors, je terminerai sur qu'est-ce qui nous empêche de lire au fond. Je ne vais pas parler des manques de connaissances ou de je ne sais pas trop quoi. Et puis, comment cette parole nous transforme ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Qu'est-ce qui nous empêche ? C'est qu'en fait, on a souvent envie de comprendre immédiatement. Voilà. Tout de suite, je dois comprendre. Et tout de suite, je dois me dire, voilà ce que Dieu me dit et il faut que je change. Eh bien, très curieusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que si vous faites ça, et c'est souvent nos lectures, et c'est souvent mal... c'est vrai que tu m'avais invité au séminaire, c'est souvent la base de nos homélies ou de nos prédications. C'est-à-dire que ça devient moral. Et si l'écriture, c'est ça, c'est qu'effectivement, on a intérêt à la fermer et à la remettre, parce que dans ce cas-là, elle va tout le temps nous renvoyer au fait que je ne suis pas capable de faire ce qu'elle dit. Voilà, prenez un tout petit exemple. Dans Matthieu 5, là, les béatitudes d'après, hein, on vous a dit, tu ne commettras pas de meurtre. Moi, je vous dis... Alors, je cite pas tout à fait, parce que ma mémoire n'est pas très fidèle. Si, dans votre pensée, vous pensez, vous vous dites que l'autre est... quelqu'un viendra à mon aide, je n'ai pas pris ma Bible, est imbécile, vous êtes déjà passible de la mort. Comment est-ce que je peux vivre sans que ça me traverse l'esprit de me dire... soit moi, je suis une andouille, soit l'autre. Donc vous voyez que la barre est très haut. Et si on prend l'écriture comme un livre de morale, il vaut mieux la fermer tout de suite. Mais on n'est pas là pour la fermer, donc, la Bible. Donc, Il faut absolument prendre ce temps de dépaysement. Parce qu'au fond, et c'est là qu'est-ce qu'on peut en entendre, parce qu'au fond, cette parole, son grand travail, c'est de nous faire sortir de nos idolâtries. Et c'est quoi nos idolâtries ? C'est notre manière de faire de Dieu le prolongement de ce que je pense. Ceux qui faisaient des idoles, c'était eux qui fabriquaient les idoles avec leurs burins, leurs... Alors on peut se moquer d'eux, mais en fait, on n'arrête pas de faire ça. C'est-à-dire qu'on fabrique Dieu à partir de ce qu'on en connaît déjà. Ça y est, j'ai compris qui il était. Et le texte biblique n'arrête pas de lutter contre les idolâtres. C'est-à-dire de nous dire, attention, Dieu est au-delà de ce que vous avez déjà compris. Et Jésus n'arrête pas de dire et de vivre cela, à tel point que les disciples eux-mêmes sont décalés. Mais ça, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'on découvre justement que Dieu est bien plus loin que nos boîtes dans lesquelles on essaye de le mettre, et qu'il est vraiment un Dieu vivant. Qu'il est vraiment Père, Fils, Esprit Saint, celui qui souffle là où il veut, et celui qui est toujours en train de réanimer la vie. Et vous voyez bien que ça nous transforme. Ça nous transforme à la fois dans tous nos échecs, et c'est ce grand champ de la réconciliation. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, dit Paul. Ce champ de la réconciliation avec Dieu, mais de la réconciliation avec nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de nous justifier si Dieu n'est pas un juge. Je ne suis pas là pour essayer de dire « ouais, mais ça, ça a été mal ». Mais tu sais, ça quand même, c'est pas nous. Et l'année de la miséricorde, je crois que le pape François sent bien que c'est au cœur même de notre vie sociale, de notre vie chrétienne. C'est ce pardon radical de Dieu. Ce oui de Dieu à la vie de chacun de nous telle qu'elle est. Et justement, le texte biblique va nous aider petit à petit à nous dégager de ce qui est impasse et à faire fortifier ce qui est de l'ordre de la vie. Voilà. Tout ce travail, comme un travail de jardinage, où on enlève peu à peu certaines mauvaises herbes, et du coup ça donne de la lumière, on revient sur cette lumière, aux plantes qui produisent des fruits. Donc nous faire sortir de l'idolâtrie, nous faire entrer dans une vraie relation de foi, de confiance à Dieu. Mais du coup, une vraie relation aussi de confiance à nous-mêmes, avec toutes nos fragilités, nos limites, nos péchés, et une vraie relation aux autres. Donc ça, c'est le premier fruit qui, je crois, donne vraiment un fruit de paix, de joie, d'aller au-delà de la peur, ça a été dit aussi. Quelque chose qui, dans notre fragilité, nous permet de tenir debout en nous appuyant sur celui qui est venu pour nous sauver et non pas pour nous condamner. Donc sortir de nos idolâtries, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou de nos fausses images aussi, sur nous ou sur les autres. Je me souviens d'une fois dans un lycée où je devais présenter en une heure la Bible, c'est toujours les gageures, devant des élèves qui n'ont pas envie de... Enfin voilà, ce n'est pas leur problème. Donc j'avais essayé de manière interactive, etc. N'empêche que toutes les terminales que j'avais là devant moi, je sentais bien qu'elles faisaient autre chose. Puis à un moment, j'ai dit... Voilà, je crois que les textes bibliques nous parlent aussi de notre regard sur nous-mêmes. Parce qu'on peut se dire que l'homme est irrémédiablement quelqu'un qui gâche tout, qui est tout le temps en train de tordre. Et on peut être désespéré de l'homme Et là, ça m'a fait un effet. Une jeune relève la tête et elle me dit « ça, c'est bien vrai ». Je me suis dit déjà en terminale d'avoir d'avoir cette image-là de l'homme, c'est-à-dire tout ce qui touche, il le défigure. Eh bien, l'écriture est là pour dire « c'est vrai ». Mais ce n'est pas le tout de l'homme. Parce que Dieu est là pour permettre que tout ce qui est beau en nous puisse aussi jaillir. Ou, c'est l'inverse, hein, c'est l'orgueil, l'homme tout-puissant. On peut faire tout, de toute façon on s'en sortira, y compris sur la nature, on trouvera toujours les moyens de rééquilibrer. Ben non. Le texte biblique vient nous éclairer sur ce que nous sommes, capables de merveilles, mais capables aussi de semer la mort. Profondément, le texte biblique vient nous unifier, nous guérir, et donc nous transformer peu à peu avec toutes nos fragilités. Et il vient aussi, et c'est très important ce qui était dit à propos des fraternités missionnaires, il vient nous ouvrir à la diversité. Parce que déjà, le texte lui-même dit autre chose que ce que je pense. Mais quand j'écoute les uns et les autres lire ce texte, je me rends compte que si l'autre pense autrement que moi, ce n'est pas une menace, mais ça me permet de mieux déboucher mes oreilles. Et vous voyez que c'est tout un travail de transformation qui peut être important aussi pour nos communautés et Dieu sait pour notre société. Voilà, je vais terminer par le texte de Jacques, l'épître de Jacques, la lettre. Tout don excellent, tout présent, parfait, accompli, plein, vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni éclipse. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître. Vous vous rendez compte la force de cette... Il nous a fait naître par la parole de vérité. Cette parole qui fait la vérité en nous. Pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Aussi débarrassés de toute souillure et de tout débordement de méchanceté, accueillez avec douceur la parole plantée en vous et capable de vous sauver la vie. Mais soyez les réalisateurs de la parole, et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance, cette nouvelle naissance, telle que Dieu nous voit. Il s'est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. Mais celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, c'est-à-dire se laisser atteindre jusque dans notre manière d'agir, celui-là trouvera le bonheur dans ce qu'il réalisera. Et pour terminer, vraiment, vraiment, ça veut dire qu'il faut aussi se souvenir de la parole, c'est-à-dire y revenir. Et je vous dirai simplement que Marie, là-dessus, est celle qui nous a montré le chemin. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Luc, au moment où Joseph et Marie retrouvent Jésus dans le temple, et où Jésus va dire « Pourquoi vous inquiétez-vous ? Ne devais-je pas être aux affaires de mon Père ?» Il est dit un peu plus tard que, enfin, il est dit, il ne comprenait pas, et un peu plus tard, il est dit, et Marie retenait toutes ces choses en son cœur. Le souvenir, même si je ne comprends pas toujours, mais garder la parole et cheminer avec elle.